bien déchiffré, décortiqué, décodé. Voici Jean-Luc Mongrain.
Il y a des incohérences dans notre système. Présentement, là, et aujourd'hui, et demain, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, va comparaître devant un comité pour parler de cette affaire d'organisme de charité qui a obtenu un contrat sans appel d'offres de 19 millions de dollars au départ. C'était pour aller plus si ça n'avait pas été annulé. Et c'était pour distribuer 900 millions, on parle-tu de près d'un milliard, là, 900 millions de dollars à des jeunes bénévoles. Tu payes des bénévoles parce qu'ils ont été bénévoles pour les aider à payer leur école plus tard. Et tout ça s'est fait dans un climat délétère, à mon point de vue, dans un climat questionnable. Je pense qu'on est devant un manque d'éthique épouvantable. Pas je pense, c'est un manque d'éthique épouvantable. Pendant qu'on s'apprêtait à faire ça, il y a des besoins énormes chez nous. Mais énorme. Et je ne parle pas de la pandémie, je parle de quelque chose qui existe depuis longtemps. La surconsommation de drogue, qui est un phénomène terrible et de plus en plus parce que les produits sont de plus en plus dangereux. Le fentanyl. C'est épouvantable le ravage que ça a fait en Colombie-Britannique et à Vancouver. Et là, il y a un vent d'ouest qui s'en vient et le fentanyl est rendu chez nous. Il y a une clinique qui a été fondée par une pionnière, qui est la docteure Marie-Ève Morin, la clinique Caméléon, qui est spécialisée justement dans les dépendances et dans les problèmes de santé mentale. Ben, imaginez-vous que cette clinique, faute de soutien et d'aide financière, va fermer le 28 août, au moment où, dans les front pages des journaux aujourd'hui, on apprend que le fentanyl est arrivé en ville, qui est une drogue, qui est une cochonnerie mortelle. Nous allons lui parler à cette docteure. Bonjour, docteur Morin.
Bonjour, M. Mongrain. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Ça fait très longtemps.
Oui. Comment avant la clinique Caméléon. Ça va, Ça va bien, je vous dirais. Je suis résolue. J'ai accepté la situation parce que je veux dire, j'avais pas tellement le choix, là, sinon je m'en allais vers la faillite si je continuais. Mais j'avoue que je trouve ça quand même ironique qu'en pleine pandémie comme ça, on nous dit que les besoins sont plus grands en santé mentale, alors que la dépendance, c'est un problème de santé mentale. On peut pas dissocier les deux. Malheureusement, dans notre système, il semble que la santé mentale, il y avait des grands montants qui ont été dédiés à ça. La dépendance, malheureusement, en tout cas, pour ce qui est de la clinique Caméléon, ça n'a pas été possible. Mais pourtant, j'ai rencontré toutes les entités possibles et imaginables du système de santé. Là, c'est des abréviations, mais il y a eu le CIUS, il y a eu le DRMG, il y a eu le DSMD, il y a eu la santé publique, l'INSPQ et le ministère. Et tous ces gens-là ont gardé les portes fermées. Donc, c'est dommage.
Mais c'est quoi la réponse?
La réponse, c'est qu'il y avait, de l'argent à investir en santé mentale, mais pas en comorbidité. Les comorbidités, c'est la présence d'un problème de santé mentale sur lequel s'est greffée une dépendance. Donc, moi, c'est ça que je fais comme travail.
Bon, pour se parler, là, c'est que nous autres, la santé mentale, on va investir là, mais pas si c'est mêlé ou joint avec de la drogue.
En tout cas, il n'y avait pas l'air prêt à ça pour l'instant. Il reportait ça après la pandémie et Dieu sait que la pandémie est loin d'être finie. Fait que moi, je ne pouvais plus attendre. Ça faisait quand même 2 ans que je rencontrais toutes ces entités-là. Puis malheureusement, la réponse a été non. Mais écoutez, je vais rester médecin, je vais garder tous mes patients. Je m'en vais travailler à la clinique du Mont-Carmel sur René-Lévesque. C'est une belle clinique qui est ouverte depuis longtemps. J'ai aucune crainte que ça ferme. Et on m'a très bien accueilli.
Mais est-ce qu'il est trop tard si on vous disait demain, voici? Voici l'argent dont tu as besoin.
Ben en fait, là, j'ai vendu tous les meubles. Là. Il reste, j'ai tout vendu. La clinique est presque vide en ce moment. Il reste mon bureau à moi. Mais on a vendu les meubles, on a fermé les comptes, on a écourté le bail. J'ai vraiment tout fait les démarches là, qui étaient nécessaires. Fait que je pense pas que je reviendrai en arrière.
Vous connaissez pas Yogi Berra, hein?
Non.
Yogi Berra, c'était un ancien joueur de baseball. Il disait « It's not over until it's over ».
Oui.
C'est jamais nécessairement fini. Mais je vous souhaite, en tout cas, une belle continuation et revenons à ce qui nous occupe. Quand je vois que le fentanyl est de plus en plus présent, parce qu'il y était présent à Montréal.
Exactement. Il ne faut pas dire qu'il n'était plus là. Hein. Il était toujours, il a toujours resté un peu de fentanyl. Là. Il y a même des opiomanes qui consomment délibérément du fentanyl maintenant, parce qu'il y en a tellement eu dans les dernières années. qu'il y en a qui ont augmenté leur tolérance et donc l'héroïne fait plus l'affaire. Donc, ils sont obligés de s'acheter du fentanyl. Il y en a de ça.
Du fentanyl?
Le fentanyl, c'est un opioïde synthétique, donc qui est synthétisé en laboratoire, qui est 40 fois plus puissant que l'héroïne et jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine. C'est un excellent médicament qu'on donne en anesthésie, entre autres. Mettons, pour faire une intervention brève, un avortement ou, réparer une plaie, on peut donner du fentanyl, entre autres, ou des chirurgies qu'on peut faire sous fentanyl. Le problème, c'est quand ça se ramasse sur la rue, on peut pas calculer le dosage exact, hein, parce qu'en salle d'opération, on connaît exactement les dosages, puis s'il arrive quelque chose, on peut réanimer la personne. Alors que dans une maison ou dans la rue, c'est pas toujours le cas, puis les doses sont difficiles à calculer.
Ce fentanyl-là, évidemment, est-ce que c'est un marché de distribution qui appartient au même univers que les autres pushers? C'est-tu un produit là que l'on se vend dans ruelle, là, t'sais?
C'est sûr qu'il y a des réseaux criminels qu'on a pointés du doigt au début. Il y en a d'autres qui paraît qui battaient les vendeurs de fentanyl parce qu'ils voulaient pas que ça rentre sur le marché. Mais les identifier comme tels, je serais pas nécessairement à l'aise. Mm-hmm. Mais oui, ça vient du crime organisé de la même façon que la cocaïne ou le Xanax ou les autres drogues. Mais souvent, c'est pas présenté toujours comme du fentanyl. Donc, vous voyez, l'exemple actuel qu'on vit, c'est la fameuse héroïne mauve. Donc, c'est une poudre qui est vendue comme étant de l'héroïne mauve, de couleur mauve,
ouais.
Mais finalement, c'est du fentanyl qu'il y a là-dedans. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui s'attend à avoir de l'héroïne, puis qui est habitué à l'héroïne, puis qui tombe sur le fentanyl, c'est certain qu'il y a un risque de surdose très élevé.
Le fentanyl, c'est-tu injection ou c'est comprimé?
Ah ben ça peut être majoritairement c'est sous forme de poudre pour être injecté la plupart du temps. Quand c'est pris en anesthésie, c'est aussi injecté. À ma connaissance, des comprimés contenant du fentanyl, à ma connaissance, je pense pas qu'il y en a tellement. Mais quoi qu'il y a eu à l'époque, en pleine crise des opioïdes, il y a eu ce qu'on appelait les green beans. C'était des faux oxycontins qui contenaient en fait du fentanyl. Donc, ça se peut qu'il y en ait encore.
Là, vous me parlez en médecin.
L'oxycontin, c'est une sorte de morphine, je m'excuse. L'oxycontin, c'est une morphine qui est quand même très populaire sur la rue.
J'ai de la misère avec l'aspirine, moi, ça fait qu'il y a plus fort que ça, là.
Mais imaginez quand vous pensez tomber sur de l'oxycontin, qui est une forme de morphine quand même puissante, mais ça n'a rien à voir avec le fentanyl, puis vous tombez sur du fentanyl, c'est pas mal mieux que les gens autour de vous aient de la naloxone. Hein. La naloxone, c'est l'antidote pour les opioïdes.
Bon, parlons-en.
Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été sauvés par ça.
Oui, mais c'est pas... Ça, je prends ça, là, je me relève pas sur mes deux jambes puis je m'en vais comme s'il n'y avait rien eu. Là.
Bien, c'est d'ailleurs une des consignes qu'on fait aux consommateurs de ne jamais consommer tout seul. Surtout pas un dépresseur important comme l'héroïne ou le fentanyl. Donc, c'est sûr que si on fait une surdose, c'est pas nous qui va se donner la dose de naloxone, c'est quelqu'un d'autre. Donc, on recommande aux gens de consommer plus lentement, de ne pas consommer seul, de toujours avoir avec eux de la naloxone et de ne pas hésiter à appeler l'ambulance ou la police s'il y a une surdose parce que souvent, en tout cas, par le passé, ce qu'on a déjà vu, c'est une personne qui fait une surdose, mettons, dans un crack house ou un appartement. Mmh. Et là, les gens donnent de l'analoxone, mais n'osent pas appeler la police parce qu'ils ont des drogues en leur possession. Alors que maintenant, on sait que la loi protège les autres consommateurs autour, qu'il y a la loi du bon samaritain. Donc, quand on veut sauver une vie, oui, il faut appeler l'ambulance. Il y a des cas où on ne l'appelle pas.
Okay. J'ai une question de curiosité qui n'a rien à faire avec le fentanyl. Vous, là, vous êtes médecin, Marie-Ève Morin.
Oui.
Vous aidez des gens qui ont des problèmes de santé mentale et de drogue. Comment on se sent à faire ça? C'est pas la médecine la plus...
Au contraire, c'est hyper gratifiant. Je vous dirais
ça? OK, c'est correct. C'était ma question.
Moi, soigner des gens qui n'ont pas de problème, ça me challenge pas, ça me motive pas. Moi, je veux voir des gens qui ont des vrais problèmes pour qu'on puisse en régler des problèmes. Okay. Puis regardez, quand quelqu'un arrive puis qui est dans la rue, qui consomme de l'héroïne, qui n'a plus une scène, qui a des problèmes de dépression récurrente ou de TDAH, par exemple, ben ça prend pas grand-chose comme intervention pour faire une grande différence. C'est très gratifiant soigner ces gens-là, honnêtement. Et ce sont des clients très fidèles. Moi, ça fait plusieurs cliniques
fidèles
que je
fais en
15
ans. Fidèles parce qu'ils sont accros ou fidèles parce qu'ils veulent s'en sortir?
Ils sont fidèles au docteur.
Okay.
Ils sont loyaux. Ils se présentent à leur rendez-vous. Il y a plein de monde qui me dit que ça doit être déprimant. Ils ne doivent pas se présenter. Pas du tout. Ce sont des patients très loyaux. Puis écoutez-moi, en 15 ans, j'ai fait peut-être 4-5 cliniques et des patients qui me suivent depuis le tout début. Et ils vont me suivre encore à la nouvelle clinique où je m'en vais.
Mais vous en avez certainement perdu.
Oui, j'en ai perdu de surdose, de suicide, d'accident, d'un occurrent en prison. Mais je vous dirais que la majorité même ceux qui passent par un chemin très chaotique finissent par s'en sortir ou du moins s'améliorer. C'est le désir qu'ils ont.
Dernière question. Est-ce que la situation que l'on vit présentement de pandémie a augmenté le désarroi et que les gens se droguent davantage?
Bien, moi, c'est ce que je constate, en tout cas dans ma clientèle, puis même dans l'entourage autour, quand on pose des questions aux gens. Imaginez que vous êtes en début de pandémie, vous êtes terrorisé comme tout le monde l'était.
Ouais,
oui. Vous commencez à faire de l'anxiété, mais là, on vous dit, allez pas à l'hôpital, allez pas consulter, il y a du COVID partout, allez-y pas. Fait que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont hésité à consulter un médecin, puis malheureusement, ils pouvaient venir nous voir quand même. On a continué à travailler, mais tout le monde avait peur. Donc, quand on a de l'anxiété comme ça ou de la dépression, puis qu'on peut pas avoir de solution, la bonne solution, bien, des fois, ça va être l'alcool qui va nous calmer, puis des fois, ça va être un opioïde, puis des fois, ça va être le Xanax. Alors, il y a des gens qui se sont mis à consommer de nouveau, et il y a des gens qui consommaient déjà, qui ont augmenté leur consommation. Donc, moi, ce que je vois, c'est que les gens consomment des plus grandes quantités, puis de toute façon, la drogue est de mauvaise qualité de ce temps-là, fait que il y en a qui ont besoin de plus grandes quantités.
Ah oui, le marché est moins bon, là.
Écoutez, on est en pandémie, les frontières sont encore fermées. Hein, fait qu'importer de l'héroïne ou importer de la cocaïne, c'est peut-être pas aussi facile qu'avant.
Mieux de faire ça dans la cave chez nous avec de la cochonnerie. Merci, merci beaucoup, Dr. Marie-Ève Morin. Et je vous souhaite à vous personnellement de continuer votre excellent travail à de nouveaux cieux, sous de nouveaux cieux. Mais quelle tristesse de voir cette œuvre qui, c'est plus qu'une clinique, c'est une œuvre que vous aviez avec la clinique Napoléon. Merci, Caméléon.
Caméléon.
Merci, okay. Merci beaucoup.
Merci, bonne fin de journée à vous.
OK, bonne chance à vous également. Retour de la pause. Ah, mon Dieu, impôts. C'est reporté. Un autre cadeau de M. Trudeau.